Si on m'a demandé d'intervenir dans ce colloque, c'est avec le projet, au fond, de faire une espèce de toile de fond par rapport aux discussions qui ont lieu sur les nouveaux modes de mise en valeur des bâtiments religieux, des lieux religieux, une espèce de toile de fond pour ressaisir certaines évolutions de la scène religieuse contemporaine. Néanmoins, je le ferai autant que je pourrai en reliant directement mon propos à la question même du colloque, c'est-à-dire à la question des espaces, des territoires et des lieux. Je le ferai d'autant plus que je pense qu'on peut véritablement faire l'hypothèse, du point de vue sociologique, sur laquelle les espaces religieux, les espaces physiques, la présence monumentale du religieux dans un territoire donné, condensent d'une façon absolument particulière le rapport de la religion à la société, à la culture, à la politique, et plus même, elle révèle cette inscription territoriale et physique, elle révèle le rapport de la religion à elle-même. Donc c'est dans cette perspective, si vous voulez, que j'aimerais, à travers la question des lieux, mettre en perspective quelques lignes de changement de la scène religieuse contemporaine. Alors, je pense que cette problématique des lieux, elle n'est pas seulement opérante pour saisir, si j'ose dire, ce qui se perd. Ce qui se perd, c'est-à-dire au fond, ce qui s'exprime dans la tonalité inquiète du titre même de ce colloque. Que vont devenir les églises normandes? Bon, il y a une inquiétude derrière cela, et qui renvoie, au fond, implicitement, et ça a été présent quand même dans toute une série de propos, à l'idée que quelque chose se perd. Et en même temps, je pense que cette problématique des lieux, du point de vue sociologique qui est le mien, elle est également extrêmement efficace pour saisir l'émergence de nouvelles formes de la sociabilité religieuse qui peut-être sont en train aussi de recomposer la vie même de ces lieux et de ces territoires. C'est un petit peu autour de ces deux pôles que j'aimerais organiser mon propos ce soir. Bon, commençons par, au fond, ce qui se donne à voir le plus immédiatement dans la relative désertion des lieux religieux, puisqu'il faut constater ce fait. Ce qui se donne là, c'est à travers en particulier l'effondrement de la pratique et aussi à travers la catastrophe de la démographie cléricale. C'est que là se lise, enfin catastrophe, je m'entends, moi comme sociologue, je ne sais pas si c'est une catastrophe ou pas, mais je constate que pour un modèle d'existence du religieux, il se passe là quelque chose qui est absolument crucial. C'est là que se repèrent les symptômes les plus évidents, les plus palpables de l'effondrement de ce qu'on peut appeler, et le mot a été employé d'ailleurs ce matin, je crois, de l'effondrement d'une civilisation paroissiale constituée dans la très 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 longue durée de notre histoire. L'histoire et la sociologie, depuis très longtemps, et aussi la pensée pastorale d'ailleurs, associe cet effondrement à la déchristianisation. Et là aussi, le mot a été employé à plusieurs reprises. Déchristianisation qu'on saisit comme une réalité finalement qui serait très contemporaine. En réalité, le mot est extrêmement ambigu. Un article paru il y a un certain nombre d'années sous la plume d'Émile Poulla, je crois, sur la déchristianisation, mot ambigu, disait bien la chose. En fait, la désertion massive des lieux religieux à laquelle on assiste aujourd'hui renvoie à un phénomène qu'il faut lui-même ressaisir dans la très longue durée. Il faut remonter pour comprendre ce qui se joue dans cet évidement progressif des lieux. Il faut remonter en amont, bien en amont, des processus d'urbanisation et de modernisation qui ont vidé les espaces ruraux de leur population et donc provoqué effectivement un choc quant à la réduction des communautés villageoises et donc aussi des communautés paroissiales. Il faut remonter en amont de la grande rupture de la modernité politique, celle de la Révolution française, qui marque d'une façon cruciale la perte d'emprise qui ne va cesser de s'accentuer de l'institution religieuse sur la société elle-même. Sachant que cette rupture de la modernité, elle joue à la fois sur le terrain de la laïcisation des institutions séculières, avec ce que cela implique pour cette espèce d'institution mère qu'était l'Église. On songeait que sous l'Ancien Régime, l'Église contrôlait tout, l'état civil, l'éducation, la santé, etc. L'Église contrôlait entièrement toute une série de dimensions de l'action publique qui vont passer à partir de la Révolution, à des institutions séculières. Donc, laïcisation des institutions, mais beaucoup plus profondément, ce qui se joue dans ce grand tournant de la modernité politique, eh bien, c'est d'abord et avant tout l'avènement du sujet. C'est l'avènement du sujet comme sujet citoyen, avec ce grand renversement qu'a très bien mis en évidence mon collègue Marcel Gauchet. La loi descendait du ciel, le principe de la souveraineté était dans le ciel, c'était Dieu, qui était le principe de la régulation à travers cette médiation qui était l'institution, et à partir de l'avènement de la modernité politique, mais la loi, elle monte du corps citoyen dans lequel des individus doués de raison sont capables, dans le débat public entre eux, de produire la normativité de leur propre société. Bon. Et donc l'historicité de leur propre société. Ce grand basculement de la modernité, évidemment, signifie que l'institution mère qui organisait, au fond, la régulation terrestre de cette loi divine, eh bien, se trouve progressivement refoulée, repoussée sur les marges, avec une espèce d'histoire qui a été très violente en France, mais qui s'est produite dans tous les pays, qui n'est pas une histoire spécifiquement française, comme on le croit très souvent. En France, ça a pris une forme extraordinairement brutale de rupture entre les deux France, entre la France qui résistait à cette tendance et l'autre France, la guerre des deux France. Mais cette guerre des deux France, qui est la modalité française de ce reflux, on l'observe y compris dans des pays qui sont à nos yeux français restés très religieux. Je pense aux États-Unis par exemple, sauf qu'on oublie qu'en réalité, les processus de privatisation du religieux, d'affaissement des frontières dénominationnelles, d'absorption du religieux dans une religion civile de plus en plus évanescente, tout ceci fait aussi partie de ce qu'on a appelé les logiques de la sécularisation, vécues en France comme un processus de perte directe du religieux. Bien. Il faut remonter, je dirais, pour comprendre ce qui est en jeu dans cet évidement, il faut remonter même en amont de ce moment, il faut remonter à des processus de différenciation interne de cette société qui était encore sous l'emprise du religieux. Dès le début du XVIIIe siècle, dans certaines régions de France, on peut déjà parler de déchristianisation dès le début du XVIIIe. Et de ce point de vue-là, quand on se remet en présence de cette longue durée historique de l'affaissement, que je mets ici en scène uniquement pour en finir avec l'idée selon laquelle nous serions dans une situation complètement nouvelle, eh bien, ça fait voler en éclats, en particulier le mythe, en réalité mythe construit au XIXe siècle, consistant à rabattre le grand antagonisme de la guerre des deux France sur l'opposition entre une France rurale et une France urbaine. Comme si la France catholique, résistante à la Révolution, hostile à la laïcité, etc., c'était la France rurale, et puis la France urbaine serait la France républicaine progressiste. Rien de plus faux. Il y a des régions rurales qui, dès le XVIIIe siècle, avaient déjà engagé un processus très avancé d'émancipation par rapport à la tutelle de l'Église, alors que certaines villes sont demeurées et demeurent encore bien plus pratiquantes que d'autres, que des régions rurales. Donc, mettons de côté d'emblée le mythe selon lequel il y aurait d'un côté une France rurale avec ses églises, etc., et puis de l'autre une France urbaine déchristianisée. Tout ça ne tient pas une seconde. Ce que les grandes enquêtes de Le Braz, pas Hervé, Gabriel, le père, les grandes enquêtes de Gabriel Le Braz, qui étaient des enquêtes pionnières, ont justement mis en évidence, c'est que la cartographie religieuse très ancienne de la France et qui s'inscrit dans dans le bâti lui-même, cette cartographie est en réalité très complexe, avec des variétés de situations, ce qu'il a appelé des civilisations de pratiquants. La France est une mosaïque de civilisations de pratiquants, et que pour mettre en scène la diversité de ces situations, il y a des facteurs religieux. Par exemple, la manière dont s'est effectuée la pastoration. Toutes les régions n'ont pas été imprégnées de la même façon par la présence de l'Église. La Bretagne et la Normandie, ce n'est pas la même chose. Le Pays basque et la Creuse, ce n'est pas pareil, etc., etc. des facteurs politiques qui tiennent au rapport de ces régions à l'État, des facteurs sociaux et économiques, de développement, des facteurs géographiques, des régions ouvertes et régions fermées, et puis des facteurs anthropologiques, notamment les systèmes de parenté et les modes de la transmission du patrimoine familial, du patrimoine qui lui sont associés. Donc, une multiplicité de civilisations de pratiquants, et donc, je rappelle ceci, d'une part, parce que ça me permet de remettre en scène dans la longue durée ce processus d'évidement, et puis surtout ça me permet de souligner à quel point il ne faut pas le saisir comme une espèce de loi de l'histoire, mais comment il faut le décliner à travers des situations locales qui peuvent varier, y compris à travers une même région. La Manche, c'est pas l'Eure, et la Seine-Maritime, c'est pas l'Orne. Bon. Ceci dit, une fois qu'on a souligné cette diversité, et c'est important de le faire, il est clair que cette diversité a été prise historiquement dans un dispositif spatial qui se confond, qui s'est confondu avec le système d'emprise de l'institution dans la très longue durée. Et il est clair que le pivot, le cœur de ce dispositif spatial, c'est évidemment le bâtiment église autour duquel s'organise, très longtemps sans qu'il soit possible de distinguer l'une de l'autre, au moins jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la vie religieuse et la vie sociale. Donc, il y a la question des lieux que vous posez, ce n'est pas une question de cadre de la vie religieuse. Le bâtiment, église, n'abrite pas simplement la vie religieuse. Il est la vie religieuse d'une région. C'est en fait, ce qui est très intéressant, c'est à quel point, et ça m'a beaucoup frappé ce matin en entendant parler des gens qui s'occupent du patrimoine, à quel point ils sont imprégnés de cette idée, même s'ils ne la formulent pas comme je la formule, à quel point ils sont imprégnés de ça. C'est-à-dire l'idée que ce qu'ils font, c'est beaucoup plus que de s'intéresser au cadre fonctionnel de la vie religieuse, de la vie culturelle, etc. C'est, ils jouent avec quelque chose qui est le religieux même. Voilà, je voudrais y insister. Et j'y insisterai d'autant plus que ça vaut la peine de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et aussi pourquoi il est si compliqué de gérer ces questions, pourquoi il est si compliqué, par exemple, de fermer une église que personne ne fréquente, pourquoi tout le monde est collé au plafond alors que personne par ailleurs n'est prêt à s'investir pour faire le ménage de l'église, etc. C'est des petites choses, ça a l'air anecdotique, mais concrètement, qu'est-ce qui est au fond de cet attachement? Eh bien, au fond de cet attachement, il y a le processus inséparablement théologique et politique qui a imposé l'église avec un petit e, le bâtiment église, comme le lieu de l'église avec un grand E, c'est-à-dire le corps du Christ, la communauté des croyants, vivants, morts et futurs. Cette espèce de superposition du contenant et du contenu. Et ça, c'est au cœur de la problématique des lieux. On ne peut pas traiter les lieux religieux comme n'importe quel lieu. C'est pas un immeuble qu'on construit ou une... C'est autre chose. C'est qu'on hérite des siècles pendant lesquels s'est construite cette identification progressive du contenant au contenu. Il y a un médiéviste, un historien, qui est un type absolument formidable d'ailleurs, qui s'appelle Dominique Ioniapra, qui a étudié finement le processus en question, qui en gros se joue entre 9e et 13e siècle, c'est-à-dire le moment où précisément le contenant s'incorpore le contenu, Dieu est devenu pierre. Et dans le très beau livre qu'il a écrit, qui s'appelle « La maison Dieu », un très gros livre qui vient d'ailleurs, je vous le signale, d'être republié en livre de poche dans la collection Point Histoire. Il y a l'exergue du livre, c'est le vers de Victor Hugo, « Dieu, cela n'est pas tant que ça n'est pas en pierre. Il faut une maison pour mettre la prière. » Bon, ce vers d'Hugo, au fond, dit beaucoup de choses de l'intensité des enjeux affectifs et symboliques qui se jouent autour du bâtiment église. Donc, on ne peut pas séparer les modes d'investissement des lieux et toute la construction théologique, ecclésiologique qui accompagne cet investissement des lieux. Ça ne tombe pas du ciel, cette affaire-là. Ce n'est pas une affaire d'attachement affectif comme ça. Ça vient de l'adéquation entre une construction à la fois théologique, théologique et ecclésiologique et, évidemment, un processus par lequel, entre 9e et 13e siècle, eh bien, la force d'encadrement et de structuration de la société de l'Église romaine s'impose d'une façon absolument prodigieuse. Donc, un processus social et politique d'un côté, une élaboration théologique de l'autre et la floraison de notre paysage bâti. Tout ça doit être tenu ensemble. Au point que, dans cette civilisation, en réalité, qui se constitue dans ces siècles, les espaces religieux, les lieux, les bâtiments religieux, sont en tant que tels des espaces de sacralité au cœur de la société des hommes. Ils sont perçus comme cela. La maison Dieu, c'est le titre du livre de Dominique Yonnerpa, la maison Dieu est exaltée comme une personne sainte. C'est le lieu où l'Église avec un grand E, la communauté croyante, s'édifie avec, au sens propre du terme, dans les deux sens du terme. Donc, voilà. Donc, un long processus de structuration théologico-politique des espaces qu'il faut garder en mémoire pour comprendre donc la profondeur d'enracinement de la civilisation paroissiale. Ce n'est pas un maillage administratif, c'est beaucoup plus que ça. Même si il est très clair que le Concile de Trente a donné à cette structuration antérieure une formalisation juridico-administrative qui était très directement liée à l'enjeu de contrer la réforme protestante, et que effectivement ce dispositif administratif est venu compléter en quelque sorte cette construction symbolique, politique et théologique qui est en amont. Donc nous héritons de tout ça, et nous devons faire avec tout ça. Cette histoire d'ailleurs permet aussi de comprendre à quel point les bâtiments peuvent attirer la violence quand l'emprise de l'Église est contestée. Pourquoi est-ce que des populations qui ont fait baptiser leurs enfants, qui ont enterré leurs parents dans des églises à certaines périodes historiques cruciales, ont pu s'acharner sur les bâtiments pour les démolir? Pourquoi la violence contre les bâtiments ne peut se comprendre? Les gens ne deviennent pas fous. Ils sont simplement en train de régler leurs comptes avec le système d'emprise qui se joue à travers ça. Donc, mise en jambe, si j'ose dire, pour que malgré tout, même si nous sommes très loin de tout ça, nous portons tout ça, y compris à travers nos problématiques du patrimoine. Et c'est quand même une chose qui me paraît importante de rappeler. Ce qu'opère le Concile de Trente, c'est qu'il va en quelque sorte redoubler ce dispositif qui s'est joué autour de la construction du bâtiment, il va le redoubler en l'associant à une figure clé du dispositif de la civilisation paroissiale, qui est le prêtre. Ce que le Concile de Trente et toute la contre-réforme catholique met en place, c'est la figure du prêtre qui est au centre, qui est celui qui est le fameux affectataire, si j'ose dire. Il est là, il est cette figure du prêtre rien que prêtre, du prêtre formé pour l'administration des biens de salut, seul dépositaire des capacités de gestion de ces biens de salut, face à une communauté de fidèles dépourvue radicalement du pouvoir religieux et qui dépend entièrement de cette figure du prêtre pour tous les actes religieux et civils de sa vie, ce prêtre qui est en réalité doté d'une capacité d'autonomie dans l'Église dont il est le desservant, mais dont il est d'une certaine façon l'évêque. Le prêtre évêque en sa paroisse, c'est pas du tout une formule. Pape même en sa paroisse. Bon, on oublie que le pape est d'abord un évêque. Et avec des conséquences aussi dans la manière de concevoir le lien à l'environnement social, puisque tout habitant du territoire, et là, peu importe qu'il soit croyant, pas croyant, etc., ça n'a aucune espèce qui croit bizarrement, peu importe, tout habitant du territoire est potentiellement ressortissant de cette Église. On est là devant, et là je pense que le cas français de ce point de vue-là est absolument extraordinaire, on est là devant une espèce d'épure de la communalisation de type Église selon Max Weber. C'est vraiment la formule, au fond, d'une Église qui occupe l'espace d'une façon intégrale, qui se réfléchit, qui se construit, qui s'édifie elle-même comme occupant l'espace. Donc un maillage, effectivement, mais un maillage qui est adossé à cette modalité de compréhension de l'institution elle-même. Donc ce système a eu d'autant plus de force pendant très très longtemps, enfin jusqu'à la modernité, qu'il a été inséparablement relié à un dispositif de régulation religieuse de l'espace social, puisque l'Église, effectivement... Et C'est là que s'origine ce qui est une invention du XIXe siècle, romantique et traditionnaliste, celui de la France toute chrétienne du passé. La France n'a jamais été toute chrétienne. Jamais. Elle a été prise dans ce dispositif de gestion religieuse des espaces et des populations. Quand l'invention au XIXe siècle, en réaction évidemment contre la modernité politique, l'invention du mythe de la France toute chrétienne du passé, celle qui s'exprime dans les romans de Chateaubriand, etc., etc., cette France toute chrétienne du passé ne veut pas dire que tous étaient pratiquants. Mais ça veut dire que tous, le voulant ou pas, se trouvaient dans la matrice culturelle prescrite par cette histoire et par ce maillage territorial de l'espace. Qui, d'ailleurs, maillage territorial, qui est aussi, ce paysage religieux spatial, est un paysage sonore. De ce point de vue-là, la question des cloches, la question de la gestion du temps, je réfère au livre de Corbin, le paysage sonore est aussi important que le paysage. Voyager en France, c'est voir des clochers partout. Mais quand vous promenez aux États-Unis, vous voyez aussi des clochers partout. Sauf que la multitude, il y a des clochers partout aux États-Unis, quand on sort des centres-villes, et même d'ailleurs dans les centres-villes. Il y a des clochers partout. Sauf que quand vous vous approchez de ces églises, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez devant un panneau qui vous dit le révérend machin de l'église méthodiste, de l'église baptiste, qu'est-ce que ça donne à quoi ça renvoie ce paysage de clochers, enfin, qui ne sont pas des clochers justement. Je vais y venir dans un instant. C'est un paysage muet. Il n'y a pas de paysage sonore. C'est simplement la vision de la pluralité dénominationnelle et de la concurrence d'un dispositif d'emprise territoriale où chacun installe sa boutique, si j'ose dire, à côté d'un autre. Mais avec un mode d'occupation de l'espace qui, effectivement, est un mode muet. Je me suis longtemps demandé, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qui fait tellement la différence? Et je me suis rendu compte que c'était les cloches. Il n'y a pas de cloches. Tout le monde n'a pas sonné ses cloches dans son coin. Donc, on ne sonne pas les cloches. Tandis que le propre du paysage des clochers en France, c'est d'être tellement... il épouse un paysage sonore. Bon, je ferme cette parenthèse, mais lisez Corbin, tout le monde l'a lu ici d'ailleurs. C'est quand même, de ce point de vue-là, une merveilleuse description. Je dis tout ça pour essayer de faire mesurer le poids matriciel du point de vue culturel de ce dispositif. C'est une matrice culturelle qui permet à Jean-Paul Sartre, qui était quand même pas ce qu'on peut appeler un familier des sacristies, Jean-Paul Sartre, quand il dit dans « L'être et le néant »« Nous sommes tous catholiques », il veut dire ça. Il veut dire « La croyance, c'est tout à fait secondaire. Qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, croyant, qu'on soit dans la communauté, on participe de cette matrice culturelle parce que sa puissance d'emprise est telle qu'en réalité, d'une façon ou d'une autre, on est tous dedans. Et on est tous dedans à un point tel que toutes nos institutions civiles se sont construites en référence à cette affaire. Et en particulier notre carte administrative, notre conception de l'État, notre manière de concevoir l'école. Bon, l'école de la République, elle se construit en miroir. Et d'ailleurs, l'immense problème de la laïcité aujourd'hui, c'est qu'elle plonge en même temps que l'Église catholique. C'est-à-dire que longtemps, laïcité et Église catholique se sont pensées rivales. En réalité, elles sont en miroir, elles sont adossées l'une à l'autre. L'effondrement de l'une ne fait pas le bonheur de l'autre. Les deux plongent en même temps. Parce qu'elles sont toutes les deux confrontées au même problème, la pluralisation de cette société et la dislocation de cette matrice qui finalement a été sécularisée de l'intérieur, mais a continué très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est ça. C'est pas que l'Église catholique soit privée de ses fidèles. Il y a belle lurette que ça a commencé. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est la dislocation d'une matrice culturelle qui, même sous une forme sécularisée, était incroyablement prégnante. Et ça permet aussi de comprendre, là encore, l'attachement incompréhensible de populations complètement indifférentes aux églises. Ce qui fait dire à un de mes collègues anglais qui est assez piquant, David Martin, il dit « La France est formidable, c'est un pays catholique sans christianisme. » Alors évidemment, les enjeux de l'évidement de cette structure matricielle sont gigantesques. Et ils vont bien au-delà de poser des problèmes au clergé, à l'Église, etc., etc. Ils posent des problèmes à la société en tant que telle et à la culture en tant que telle. Alors, comment s'est passé l'évidement de cette structure matricielle? Je vais résumer ce dispositif d'évidement, enfin cette logique d'évidement, en faisant référence à un ouvrage que j'aime beaucoup, que je considère comme un des meilleurs ouvrages qui a été écrit dans le domaine de la sociologie des religions contemporaines, qui est le livre de notre regretté collègue Yves Lambert, mort beaucoup trop tôt, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dieu change en Bretagne ». Dieu change en Bretagne, qui est l'étude de la manière dont, dans un village, alors là, plus inscrit dans cette matrice, c'est pas possible. C'est la quintessence, c'est le dispositif à l'état pur de ce que je viens d'essayer de raconter. Les Merzelles, en pays gallo, hein, pas sur la côte, vraiment le fond de la Bretagne rurale. En 1900, c'est là, oui, on peut parler de chrétienté. C'est une chrétienté, c'est-à-dire que le recteur tient tout, il contrôle les consciences, il contrôle la vie familiale, il contrôle la politique, on vote comme il dit comment on doit voter, il tient tout. Et le recteur, ce qu'on appelle comme ça le curé, à l'Imerzel, c'est un monde en ordre, entièrement gouverné par le clergé. Comment est-ce que ça va exploser? Ça va mettre en gros, on en est à peu près à un siècle. La trajectoire que reconstitue Yves Lambert s'arrête en 85, mais il rêvait, malheureusement il est mort avant, il rêvait d'aller jusqu'au bout et de faire un deuxième volume. Il s'est arrêté en 85. Quel est le premier moment clé? C'est la guerre de 14-18. La guerre de 14-18, c'est l'apparition des premières fissures. Pourquoi? Parce qu'on sort du village immobile. Des gens qui n'ont jamais bougé partent au front. Ils vont laisser les fermes à des femmes qui vont devoir gérer, qui donc vont sortir de l'espace purement domestique, ou bien de l'espace de la basse-cour et des entours de la maison qui était leur lieu privilégié, qui vont prendre un certain type de pouvoir. Bon, certes, elles vont retourner à leur fourneau au sortir de la guerre, mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, des choses sont fissurées. Et puis, ces hommes qui ont été au front, pour ceux qui ont eu la chance d'en revenir, ils ont vu autre chose. Et notamment, ils se sont confrontés à la France laïque. Dans les tranchées de Verdun, où d'ailleurs la laïcité a trouvé son véritable apaisement. Bon, la loi de 1905 avait déjà commencé à apaiser les choses. En France, en général, les apaisements passent par la loi. Mais le vrai apaisement, c'est 14-18, quand tout le monde se fait trouer la peau ensemble dans les tranchées de Verdun. Là, on ne se demande pas qui est croyant et qui ne l'est pas, qui est pour la République, et bon, etc. Donc, reste un retour dans lequel des choses nouvelles interviennent. Et puis ensuite, c'est une période assez sombre de l'histoire de la Bretagne, et puis où il ne se passe pas énormément de choses. Et puis, c'est la Seconde Guerre mondiale et surtout les années qui suivent. C'est-à-dire le boom de la modernisation des années 50, le plan Marshall, la reconstruction, la sortie d'un monde rural qui était extrêmement attardé, en l'occurrence, dans cette région de France, avec un exode rural, une démocratisation des rapports sociaux et familiaux, et les premiers signes d'affaissement de la figure du recteur. Le recteur ne peut plus de la même manière contrôler les loisirs des jeunes, etc., etc. L'école fait l'allongement de l'âge scolaire, etc. Avec un élément extrêmement important, le rôle des mouvements d'action catholique rurale, la mutation de la famille rurale, grâce notamment à la JAC, avec, vous savez, le mot d'ordre de la Jacques des années 50, celui de la décohabitation, c'est-à-dire de la possibilité pour les jeunes ménages de vivre entre eux et pas au foyer avec la génération d'avant. Et là, ce découplement des générations va avoir aussi des conséquences dans les logiques de la transmission, etc., avec toutes sortes de conséquences, donc de fissurage, de mobilité, etc., de ce monde en ordre. Tournant des années 60, double choc. Et c'est vraiment les années 60-62. L'année 62 est cruciale. L'année 62, et c'est, je parle de la Bretagne, mais c'est vrai pour toutes les régions rurales. L'année 62, c'est deux choses. D'un côté, c'est le Concile Vatican II, avec des changements très importants sur le terrain du religieux. Mais c'est aussi le vote des lois de modernisation agricole. les fameuses lois d'orientation Pisani, qui vont déclencher un extraordinaire boom économique du monde rural, qui n'est pas du tout une espèce d'espace attardé de la modernité, comme les folkloristes et certains sociologues ont continué longtemps de le penser, mais qui sont des régions qui vont devenir, alors avec des inégalités, mais par exemple, si vous prenez le cas breton, pour le coup, ou le cas de la Basse-Normandie, il est absolument clair que les lois d'orientation marquent une véritable césure, mais aussi le passage d'une figure du paysan à l'agriculteur qui va faire complètement bouger le rapport au métier, le rapport au village, le rapport entre générations, le rapport à la terre, et du même coup transformer profondément cette matrice culturelle, avec dans le livre d'Yves Lambert des développements très amusants sur les objets qui ont changé ce paysage. Eh bien, il y en a deux principaux, c'est la voiture et la télé. La voiture et la télé vont radicalement modifier cette situation. C'est sur ce terrain déjà extrêmement bouleversé qu'intervient le grand tournant, et là c'est partout dans toutes les sociétés occidentales, le grand tournant de la révolution culturelle des années 70. La révolution culturelle des années 70, c'est tout simplement l'avènement de la culture de l'individu. C'est le règne de l'individu comme sujet. C'est ce que Baudrillard en son temps appelait l'avènement de la modernité psychologique, le deuxième tournant de l'avènement de la modernité. Le premier tournant, c'est le tournant politique, c'est le sujet citoyen. Et je dirais que le tournant des années 70, c'est le sujet psychologique, et en particulier tout l'idéal de la réalisation de soi, de l'accomplissement personnel, etc., qui va devenir, alors pour le coup, le nouveau substrat de notre culture partagée. Donc on a là, j'ai pris le livre d'Yves Lambert, j'aurais pu reprendre tout ça sous d'autres formes, mais ce livre d'Yves Lambert, il nous donne, comme le film, en plus ça se lit très bien, sauf le premier chapitre qui est bourdieusien en diable et un peu lourdingue, mais la suite est très intéressante, le film d'une révolution, enfin j'ai rien contre Bourdieu bien entendu, mais c'est là, le film d'une révolution économique, culturelle, sociale et religieuse, qui en fait s'achève aujourd'hui. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et en particulier, le catholicisme breton, mais le catholicisme normand avait déjà fait le même chemin un peu en avant, eh bien il est devenu lui-même un catholicisme minoritaire, dans une société plurielle, avec des églises vides la plupart du temps. Ce qui ne veut pas dire la fin du catholicisme. Mais ça veut dire le passage à une autre forme de la sociabilité religieuse, non pas à la fin du catholicisme, mais voilà, un catholicisme d'individus, un catholicisme de gens qui choisissent de s'affilier et de participer, un catholicisme qui, voilà, est concurrencé par d'autres formes de possible affiliation, y compris sur le terrain religieux et spirituel. Du même coup, c'est aussi la fin définitive, alors elle, non pas la fin du catholicisme, mais certainement la fin définitive d'un mode de socialisation religieux directement lié à un mode d'occupation de l'espace. Alors, je dis, c'est pas la fin du catholicisme, et j'en viens donc logiquement à une autre lecture. Alors, comment est-ce que on peut, à travers les lieux, lire ce qui émerge comme forme nouvelle de la sociabilité catholique? D'abord, cette sociabilité catholique, elle a deux traits principaux. Premier trait, elle est de plus en plus une sociabilité d'individus. C'est-à-dire que les églises, etc., ne sont pas... On ne naît plus dans une église, N-A-I-T. On ne naît plus, d'une certaine façon, même si on est baptisé quand on est tout petit, on ne naît plus dans une église. Si l'on est dans une église à l'âge adulte, c'est qu'on a choisi d'y être. En gros, c'est une énorme révolution. C'est une énorme révolution. Pendant des siècles, c'était une chose qui ne se choisissait pas. On endossait une identité catholique. Aujourd'hui, on est tenu en un sens. Si on veut en avoir une, et rien ne vous y oblige, et personne ne mettra en doute votre moralité, votre capacité d'élever des enfants, etc., etc., si vous ne fréquentez pas les églises. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le fait qu'on n'endosse plus une identité. D'une certaine façon, on l'a choisie, on l'a produit, on l'invente. Bon, c'est vrai dans tous les registres, mais alors dans le domaine religieux, c'est très clair. On pourrait imaginer, deuxième aspect, que cette individualisation du croire, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la manière dont chacun en prend, en laisse, etc. Alors, vous me direz, mais attendez, vous dites, aujourd'hui, chacun bricole son système de croyance, s'arrange avec les dogmes, etc., etc. Est-ce que ça n'a pas toujours été vrai? Bien sûr que oui. Il est clair qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit, oh, vous savez, moi, bon, Oui, je suis catholique, mais vous savez, bon, l'Assomption de la Vierge, la naissance virginale, toutes ces choses-là, bon, ça n'a aucun intérêt, je n'y crois, je ne crois pas du tout, et je me sens tout à fait catholique et tout à fait reliée. Bon, vous avez des tas de gens qui sont comme ça, il y en a peut-être plein dans cette salle. Cette manière, au fond, de dire je bricole, et je revendique de bricoler. Bien entendu, on bricolait tout autant au XIVe siècle, on bricolait tout autant au XVIe siècle. Il y a une différence énorme. C'est qu'aujourd'hui, si vous dites cela, y compris à votre curé préféré, il va très bien comprendre. Au besoin, il vous dira qu'il partage à peu près votre point de vue. Mais par contre, si vous le disiez au XIVe ou au XVIe siècle, il y avait quelques bricoles qui pouvaient vous arriver. Donc, en fait, ce qui est véritablement nouveau, c'est pas le bricolage en tant que tel. On a toujours bricolé les croyances. Les chrétiens, les catholiques ont toujours, en ont laissé à toutes les époques. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, le chrétien authentique est celui qui revendique précisément de construire lui-même son récit croyant. Et ça c'est un changement extrêmement important. Ce qui, au fond, est nouveau dans notre situation, c'est l'irruption du sujet, du croyant sujet. Alors, vous me direz, il y a toujours eu des croyants sujets, ne serait-ce que les grands mystiques. C'est-à-dire que qui peut bien, et on peut même dire que d'une certaine façon, la spiritualité a toujours été l'un des facteurs d'activation de la subjectivité. Bon, on peut même dire que notre manière aujourd'hui de concevoir la subjectivité est très largement liée à une histoire spirituelle. Bon, je laisse ça de côté. Il y a une histoire religieuse de notre autonomie. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on sait très bien à quel point l'affirmation du sujet en croyant est découplé d'une affiliation dans une communauté. Alors, c'est le premier aspect. Individualisation, subjectivation, l'authenticité. Aujourd'hui, l'authenticité prime sur la conformité à des vérités à croire. Et ceci vaut. C'est pas une affaire qui atteint l'Église de l'extérieur. Ça joue à l'intérieur même de l'institution. Prenez, par exemple, l'évolution des modèles de la catéchisation. Je raconte toujours à mes étudiants cette petite histoire d'une grand-mère qui garde son petit-fils un mercredi, et puis le gamin va au catéchisme, et il revient, et sa grand-mère, supposons que nous soyons dans les années 70 pour fixer l'âge de la grand-mère lui dit « Qu'est-ce que tu as appris au catéchisme aujourd'hui ?» Le petit-fils lui rit au nez, et lui dit « Mais on n'a pas appris, on a juste appris à être bien en communauté. » Tête de la grand-mère qui avait encore vécu le catéchisme question-réponse. Bon, non, cette histoire force, qui est une histoire vraie, cette histoire force un peu le trait. Mais elle indique simplement la manière dont la culture de l'autonomie du sujet croyant travaille à l'intérieur même de l'institution, de la pastorale, etc. Et que aujourd'hui, solliciter cette subjectivation, essayer d'amener des fidèles à se penser comme authentique a pris beaucoup plus de place dans la pensée d'un clergé éclairé que la vérification de la conformité aux vérités dogmatiques. Donc tout ceci modifie les modèles religieux d'une façon considérable. Alors on pourrait dire, si les individus peuvent ainsi jouer avec les modes d'appropriation du récit croyant, ça veut dire probablement qu'il n'y a plus de communalisation possible, ou qu'elle n'est plus nécessaire. C'est plus compliqué que ça. Parce que quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que l'individualisation religieuse va de pair avec une montée en puissance du désir de communauté. Du désir de communauté. C'est pas l'individu contre la communauté, mais c'est une nouvelle forme de communauté. Non pas des communautés dans lesquelles on est automatiquement intégrés par la naissance, par la socialisation familiale, etc., mais des communautés qu'on choisit de constituer. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que se développe cet individualisme religieux, monte en puissance une religion de groupe volontaire. ces fameuses communautés de proximité qu'évoquait hier Hippolyte Simon dans son adresse à l'Assemblée, renvoyaient à ça, ce qu'il appelait les communautés de proximité choisies. Tout ceci renvoie au fait que, oui, aujourd'hui, la sociabilité catholique, elle est faite d'une multitude de formes de petits agrégats communautaires qui bougent, qui sont de moins en moins placés sous le contrôle d'un clergé de moins en moins nombreux, qui deviennent, eux, des animateurs de ce tissu de communautés de proximité ou de communautés affinitaires. Mais simplement, parler de communautés affinitaires dans un système qui a été construit sur la base d'une appartenance territorialisée, dès lors qu'on était dans un espace donné, on relevait d'une église, même si on ne la fréquentait pas, c'est un véritable changement. Alors, on voit bien comment l'Église joue en permanence sur ce jeu, puisqu'elle est à la fois appelée à gérer un dispositif administré de l'espace, et en même temps, elle sait bien qu'elle le fait avec, dans le meilleur des cas, une multiplicité de groupes volontaires. Donc, Alors, comment arriver à décrire cette situation du point de vue sociologique, si vous voulez? La manière qu'on peut avoir, nous, sociologues, de travailler, ça consiste au fond à nous donner des figures de description, c'est-à-dire arriver à repérer des figures qui, d'une certaine façon, permettent à la fois de conjuguer des observations empiriques et une interprétation des phénomènes qui se donnent à voir sur le terrain empirique, justement. Au fond, pour comprendre la civilisation paroissiale, il faut comprendre comment elle produit la figure du pratiquant. Dans une civilisation paroissiale, dans la civilisation paroissiale, ce qui est au cœur, c'est la figure du pratiquant. Et d'ailleurs, quand les sociologues ont fait les premières enquêtes sur le catholicisme, ils ont, au fond, décliné la description à partir de la figure du pratiquant. Au milieu, il y avait le pratiquant régulier, celui qui se conforme aux normes fixées par l'Église en matière de pratique, qui va à la messe tous les dimanches, puis il y a ceux qui y vont de temps en temps, puis il y a ceux qui y vont quand la cloche sonne pour eux, comme disait Gabriel Lebras, c'est-à-dire pour leur naissance, leur mariage, leur profession de foi, et puis leur funérailles. Bon, donc en gros, 4 fois par an. Et puis il y a ceux qui n'y vont jamais. 4 fois par an. 4 fois dans une vie. Bon, et vous avez une espèce de déclinaison comme ça, concentrique, autour de la figure du pratiquant. Et ce modèle, il est encore extrêmement utilisé dans les enquêtes de pratique, les enquêtes électorales. On continue de faire fonctionner le modèle. On corrèle le vote et la pratique régulière, etc. Donc ce modèle de description à partir de la figure du pratiquant reste en usage, mais sauf que la figure du pratiquant, elle est de plus en plus amenuisée, et que par contre s'impose en face de cette figure du pratiquant qui n'a pas disparu, qui existe toujours. Je ne dis pas qu'elle a disparu, mais je dis qu'elle a perdu sa centralité et en tout cas son exclusivité. Eh bien, s'impose aujourd'hui, pour décrire ce que j'évoque autour de à la fois l'individualisation et la participation volontaire, deux autres figures de description qui, à mes yeux, sont plus effectives. C'est d'une part la figure du pèlerin, et là je parle de figure de description parce que ça corrèle le fait que s'il y a une pratique religieuse aujourd'hui qui est en augmentation, c'est la pratique de pèlerinage. Et aussi le fait que le pèlerin, c'est qui? D'abord, le pèlerin, c'est un individu. Même si vous partez avec quelqu'un en groupe, vous êtes un individu. Vous cheminez. C'est-à-dire, vous êtes dans un trajet de production de votre identité. Elle n'est pas donnée d'emblée. Vous cheminez, vous allez d'une étape à l'autre. Vous ne savez pas toujours comment va se passer l'étape suivante. Vous espérez bien que vous pouvez atteindre le but que vous vous êtes donné, mais ce n'est pas complètement garanti. Il y a des bifurcations. Bon, le pèlerin, c'est le chercheur de sens, les chercheurs de sens qu'évoquait Jean-Baptiste de Foucault. C'est ces gens qui sont finalement en quête de spiritualité, beaucoup plus qu'en quête d'affiliation. C'est une figure qui est extraordinairement présente dans nos sociétés, y compris parmi les gens qui fréquentent d'une manière habituelle les églises. Mais la figure du pèlerin est une figure de description qui rend compte de cette individualisation des parcours et surtout de leur relative imprévisibilité. Et du fait que, on ne peut pas passer sa vie à pèleriner, autant la pratique est une pratique obligatoire, en principe, pratique obligatoire, normée, régulière, stable, territorialisée. La figure du pèlerin, c'est la figure de l'individu mobile qui ne répond à aucune norme institutionnelle précise, qui avance. Et puis, en face de cette figure du pèlerin, il y a une autre figure qui est celle du converti. Et le converti, alors, c'est par excellence celui qui choisit sa religion. Et c'est très intéressant quand on regarde historiquement le phénomène catéchuménal. Si on saisit, il y a des convertis, il y a des pèlerins et des convertis dans toutes les confessions religieuses. Si je suis ce couple du pèlerin et du converti, le converti qui est souvent un pèlerin qui pose ses valises, qui tout d'un coup dit, ben voilà, là je suis dans la famille que je me choisis. C'est très intéressant de voir comment a évolué au sein même de l'Église le rapport aux catéchumènes. Dans un passé pas si lointain, les catéchumènes étaient un peu marginaux, ils venaient d'on ne sait où. Ils étaient les catholiques du centre, les vieux catholiques, regardaient d'une manière un peu distante ces arrivants dont on ne savait pas très très bien au terme de quel parcours étrange ils étaient arrivés là. Aujourd'hui, le catéchumène est en quelque sorte une figure idéale du croyant, avec d'ailleurs des formes de socialisation qui le mettent extrêmement en valeur et des postpartum, une fois qu'ils ne sont plus des catéchumènes, très douloureux. La sortie du catéchuménat est une question tout à fait intéressante dans les églises. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on a entourés, valorisés, construit le rituel autour d'eux, etc., qui ont été au centre de la scène, et puis qui, un beau matin, ben voilà, ils sont baptisés, nuit de Pâques, qui se retrouvent chrétiens de base, catholiques de base, et comment se fait la sortie. C'est un très beau dossier psychosociologique, mais qui en dit long aussi sur la manière dont se recomposent les modes de la sociabilité religieuse. Alors, est-ce que cette religion de pèlerins et de convertis, est-ce que ça signifie qu'elle désinvestit les lieux religieux? Est-ce que, alors, oui, d'une certaine façon, il s'agit de formes déterritorialisées de la participation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces formes, disons pèlerines ou de conversion, qui, je répète, ce sont des types idéaux. Je ne dis pas que les catholiques aujourd'hui sont tous des pèlerins, tous des convertis. Et de même, je ne dis pas qu'il n'y a plus de pratiquants. Je dis que les affaires se recomposent entre ces différentes figures. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'émergence et la centralité croissante de la figure du pèlerin et du converti, se dessine aussi une nouvelle géographie religieuse. Une nouvelle géographie religieuse que j'appellerais, pour faire bref, une géographie qui est aussi une sociabilité, les deux sont intimement liés, une sociabilité religieuse ou une géographie religieuse des hauts lieux et des moments forts. Des hauts lieux et des moments forts. D'abord, des moments forts. Ce qui est extraordinaire à observer aujourd'hui dans le catholicisme romain en France, c'est la part d'une sociabilité de l'événementiel. Ce sont des événements, on crée des événements, et c'est autour de ces événements que se constituent des formes de participation, qui n'impliquent pas que ceux qui y sont extrêmement investis vont par ailleurs fréquenter régulièrement l'église tous les dimanches. Mais il n'empêche que ce sont des lieux d'investissement très forts. Et il y a une véritable, je dirais, l'église ne subit pas ces choses-là, elle les accompagne aussi. Il y a une pastorale de l'événementiel. La manière, d'ailleurs, l'église a un grand entraînement, d'une part, elle a un grand entraînement ancien, si l'on songe à la pastorale des mouvements d'action catholique, à la pastorale des jeunes, etc. L'église avait de l'entraînement en matière de gestion de l'événementiel, mais maintenant c'est devenu quelque chose d'extrêmement central. Toute paroisse créer ces événements pour tenter de mobiliser des formes d'agrégation un peu plus importantes que les quelques dames ou messieurs d'âge respectable qui fréquentent l'église tous les dimanches. Et cette pastorale de l'événementiel, eh bien, elle a évidemment trouvé une validation en très haut lieu, puisque vraiment, avec Jean-Paul II et les JMJ, on a eu une sorte d'épure, alors pour le coup, d'une construction instituée d'une sociabilité des hauts lieux et des moments forts à destination d'une jeunesse qui ne fréquente pas les églises régulièrement, mais qui fabrique dans ces circonstances émotionnelles intenses, dans ces lieux exceptionnels aussi et changeants, se fabrique des lieux d'identification. Alors, cette pastorale de l'événementiel n'est pas la seule modalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont la nouvelle géographie religieuse se joue aussi dans la réactivation, la réinterprétation, le réemploi d'un certain nombre de lieux qu'on pouvait penser désinvestis et qui retrouvent une espèce de vigueur. Et je pense en particulier à tous ces lieux associés, les sanctuaires, etc., associés à ce qu'on a appelé la religion populaire. Dans les années 70, quand j'ai commencé ma carrière, on traitait la religion populaire, les pèlerinages, les pratiques, les dévotions locales, etc., on le traitait comme des formes résiduelles du catholicisme associées à une société rurale. Les sociologues, ayant une connaissance assez faible du monde rural, étaient toujours persuadés que les paysans, les agriculteurs, enfin on ne les appelait pas les agriculteurs, c'était les paysans, que les paysans étaient encore, vivaient dans une espèce de pré-modernité, etc. Ils n'avaient pas réalisé que dans les années 70, ils avaient tous l'œil davantage fixé sur leur compte au Crédit Agricole que sur les problèmes, que sur les activités du rebouteux du coin. Bon, tout ça était des illusions sociologiques, si je les représente d'une façon un peu cocasse, c'est pour vous faire aussi rendre compte à quel point la sociologie, elle tâtonne aussi, elle accompagne les découvertes du social lui-même. Bon, la religion populaire, on la présentait comme une forme résiduelle d'une religion prémoderne. Bon, et on avait quelques raisons de le faire. Je prends juste un exemple. Les ostensions de reliques en Limousin. Fameuses ostensions, tous les 7 ans... à Saint-Léonard, à Limoges, etc., on sort les reliques des saints, des églises, et ils font le tour de la ville. Année 50-60, on voit baisser la fréquentation. Ce lieu, ces occasions, alors pour le coup festives, ces événements qui valorisaient des lieux de pèlerinage, de moins en moins fréquentés, alors que les populations étaient... Dans la très longue durée, c'est des pratiques très anciennes, puisque c'était destiné à remercier les saints protecteurs de la ville d'avoir protégé ces villes de la grande peste. Donc ça, c'est une très longue histoire. Eh bien, on voit que les populations s'investissent moins dans la préparation des défilés, etc., etc. D'autant moins, ils s'y investissent d'autant moins que les prêtres de l'époque, années 60, ont quand même toutes les réticences du monde à l'égard de ces pratiques, les reliques qu'on touche et machin là, magie, etc. Donc, résiduel. Bon. Si aujourd'hui vous voulez aller voir les ostensions à Saint-Junien ou à Saint-Léonard, je vous conseille vivement de réserver à l'avance, puisqu'on y vient de toute l'Europe, et de réserver à l'avance et votre hôtel et vos modes de locomotion, tout simplement parce que c'est à peu près aussi difficile de trouver une place dans ces endroits, comme dans les hôtelleries monastiques d'ailleurs, que de trouver une place dans un refuge sur un sentier de grande randonnée en plein été. En montagne. Et pour une raison simple, si je prends cet exemple, c'est pas pour faire plaisant, c'est tout simplement parce que c'est du point de vue sociologique les mêmes populations. C'est-à-dire des intermédiaires culturels, des professions, des enseignants, des profs, des professions médicales, des cadres moyens, toute une bourgeoisie moyenne cultivée qui réinvestit ces espaces. Qu'est-ce qui s'est passé entre le succès aujourd'hui des ostensions et les années 50-60, eh bien tout simplement, elles ont été réactivées par essentiellement les résidents secondaires, revenus dans le coin, qui ont dit on ne peut pas laisser perdre ça, ça fait partie de notre patrimoine culturel, qui ont pris en charge à travers des associations la renaissance des ostensions, qui s'y sont investis avec tellement de succès que le clergé s'est dit c'est quand même bête qu'on rate l'occasion de faire une catéchèse accélérée des populations grâce à eux, et qui donc a repris en main l'encadrement de ces événements, de telle sorte que ça puisse être des événements festifs mais religieux, dans lesquels quelque chose pourrait se faire, notamment pour la jeunesse, une espèce de catéchisation accélérée compte tenu de la difficulté, pour le coup, d'assurer la socialisation des jeunes. Bon, aujourd'hui, les ostensions... Mais qui oserait dire qu'il s'agit d'une forme résiduelle de religiosité ? Il s'agit au contraire d'une forme ultra-moderne de religion très individualisée, très associée à des populations qui portent précisément le plus les trajectoires de la subjectivation religieuse. Voilà, donc, première chose. Deuxième modalité de cette nouvelle géographie, donc cette reviviscence des lieux de la religion populaire, modalité, le réseau de ce qu'on pourrait appeler les oasis spirituelles. Alors, si je choisis le mot d'oasis spirituelle, c'est que ça vaut d'ailleurs aussi bien pour le monde urbain que pour le monde rural. une oasis spirituelle, c'est ce que le cardinal Marty avait demandé aux fraternités monastiques de Jérusalem quand il a autorisé Pierre-Marie de Fieux à établir à Saint-Gervais une communauté monastique en plein centre-ville. Et ce type de lieu, et en particulier, ça peut être un lieu parce qu'un évêque décide de consacrer en milieu urbain une église paroissiale à la vie monastique, pour en faire un lieu dans lequel les passants qui circulent, les gens qui travaillent, etc., peuvent venir s'arrêter une minute. Ça peut être ça. Ça peut être, comme à l'église Notre-Dame de Pentecôte, à La Défense, ce lieu extraordinaire d'une nouvelle église, d'ailleurs fort intéressante sur le plan architectural, dans laquelle, qui est en suspens, c'est symboliquement inouï, elle est en suspens au-dessus d'un nœud d'autoroute, de voie rapide. Elle est en suspens avec tous les immeubles de la Défense autour, et cette église, elle a une particularité extraordinaire. Elle est fréquentée tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Donc c'est une espèce d'inversion du modèle paroissial. Et elle est une église dans laquelle on rentre, on sort. Bon, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'il y ait une écoute, qu'il y ait un accueil. On peut être vraiment croyant, attiré par la spiritualité, etc. Mais là, on a du silence, on a un moment d'arrêt, on a éventuellement une écoute, et puis on a la messe. Bon. Mais on voit bien que se fabrique là une géographie et un type d'investissement des lieux. Alors, ça peut aussi être un réinvestissement de lieux anciens. J'évoquais Saint-Gervais à Paris, mais il y a d'autres lieux du même genre. Mais alors, dans le monde rural, le réseau, le nouveau maillage de ces oasis spirituelles, c'est évidemment les monastères, avec une fréquentation qui est inversement proportionnelle au nombre de moines qu'il y a dans les communautés, puisqu'il y en a de moins en moins, et il y a de plus en plus de gens dans les hôtelleries, avec des problèmes extrêmement complexes de réajustement, mais j'y reviendrai en fin de parcours. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant. Donc on voit bien que ce dispositif n'est pas déterritorialisé en tant que tel. Cette nouvelle forme de religiosité, elle s'inscrit aussi dans une nouvelle manière d'occuper les espaces. Et il est intéressant de voir que, au fond, aujourd'hui, nous vivons avec une géographie religieuse et un rapport aux églises qui est extrêmement complexe en réalité, puisque on voit s'articuler l'un à l'autre, parce qu'ils sont pas, ils fonctionnent pas, ces deux régimes, celui des paroisses et ce nouveau régime de la sociabilité pèlerine, pour faire bref, ces deux régimes ne sont pas entièrement disjoints, ne serait-ce que parce que l'église s'emploie à les articuler l'un à l'autre, enfin l'institution. D'un côté, malgré tout, un tissu territorial paroissial toujours inscrit fortement dans les paysages qui correspond à une gestion administrative du religieux qui est, il faut bien le dire, de moins en moins opérante et en tout cas de moins en moins facile à manœuvrer compte tenu de la démographie cléricale, avec ces églises vivantes qui condensent la présence effective d'une communauté locale, les églises satellites dans lesquelles on dit la messe une fois de temps en temps, histoire de pas perdre le contact avec les autres paroisses anciennes, et puis des églises complètement désinvesties, mais dans lesquelles se posent des problèmes de réemploi, de survie que vous avez... j'ai été absolument passionnée par les exposés ce matin, dans les problématiques de la survie et du réemploi, par exemple, culturel, mais dans lesquelles ne se joue pas seulement du culturel. On passe pas du culturel au culturel comme ça. Se joue dans ce culturel quelque chose d'une réponse aux attentes pèlerines. Il y a là des porosités qui sont tout à fait intéressantes. Et donc, en effet, sur cette trame héritée du long passé paroissial, eh bien, se greffe le réseau des hauts lieux, qui, eux, sont définis par des circulations, par des mouvements, avec des afflux pèlerins, mais qui sont eux-mêmes emboîtés, ce qui complique encore le schéma, dans des circulations plus larges, de type culturel, de type touristique, dans lesquelles, là aussi, la porosité est grande, puisque... Quelqu'un disait hier, on rentre pèlerin et on sort touriste, ou le contraire. Et en effet, il y a une porosité, et cette porosité, elle est elle-même à gérer. Donc d'un côté, une sociabilité mobile, temporaire, une sociabilité de plein et de délié, et de l'autre, un maillage administratif qu'il s'agit précisément de relier. Alors cette situation complexe, évidemment, elle est... elle présente plusieurs caractéristiques. Donc, une faible, je ne dirais pas une dérégulation complète, mais une faible ou difficile régulation institutionnelle directe. L'Église a tout de même, c'est pas du tout évident d'articuler les deux registres. Un bricolage et des hybridations entre le fameux culturel et cultuel qui sont elles-mêmes très complexes à mettre en œuvre, au point qu'on peut se demander si, à travers cela, et certains se posent la question, et toutes ces problématiques de la congruence, etc., renvoient à cela, s'il n'est pas en jeu dans ces porosités entre différents registres, quelque chose de ce que Michel de Certeau appelait la folklorisation du religieux. Ce qui n'est pas un mot dévalorisant, mais folklorisation, dans la manière dont de Certeau le pensait, c'était simplement, il évoquait très bien la chose en disant, voilà, c'est comme la Bible. La Bible, pendant des siècles, c'était un livre qui était tenu par les clercs. Les clercs le lisaient, le commentaient pour les fidèles, point. Et donc, la lecture était d'emblée normée. Aujourd'hui, la Bible s'achète pour 2 € dans un kiosque de gare. Vous l'ouvrez comme vous voulez, vous lisez et vous dites « qu'est-ce que ça me dit ?» Bon, eh bien, à travers ça se jouent effectivement des formes d'appropriation du récit croyant complètement nouvelles dans lesquelles il y a des phénomènes de folklorisation au sens où des éléments qui s'organisaient à travers la syntaxe du grand récit croyant sont en quelque sorte déboîtés de cette syntaxe et rentrent dans des combinaisons de sens nouvelles. De Certeau disait, c'est comme si les mots d'une page, qui renvoyaient à un texte, les mots d'une page étaient disséminés et puis se recomposaient dans de nouvelles combinaisons, une sorte d'oulipo spirituel. Bon, donc on est devant une construction, une logique de brouillage des frontières qui fait que il faut arriver à penser ce brouillage lui-même et à le penser autrement que... Est-ce qu'on peut mettre du cultuel à la place du culturel? Est-ce que le culturel est légitime pour remplacer le culturel? C'est pas le problème. C'est étudier précisément les porosités qui font qu'en réalité, l'un et l'autre s'interpénètrent. Chacun sait, par exemple, à quel point les musées religieux posent des problèmes tout à fait passionnants. En particulier, une question tout à fait intéressante, qu'est-ce que fait sinon le conservateur, c'est pas lui qui garde les salles, mais qu'est-ce que fait le gardien d'un musée quand il voit des gens faire des dévotions devant un objet de culte dans un musée? Je vous assure que c'est une question qui se pose de plus en plus. Alors, c'est intéressant parce que ça se pose partout. Alors, par exemple, au Japon, dans les musées d'art Shinto, la solution est trouvée en ayant un système double. C'est-à-dire qu'il y a des Bouddhas, des bouddhistes ou des symboles shinto devant lesquels on fait des dévotions, et on prévoit la possibilité de déposer des offrandes, etc. Vous n'imaginez pas un musée religieux dans lequel on mettrait un support pour mettre des bougies. Il y aurait comme un problème. Mais il n'empêche que des travaux ont été effectués sur les musées religieux qui montrent que ces musées peuvent parfaitement être investis par des gens qui vont, à travers ça, jouer quelque chose d'un enjeu spirituel. Et inversement, les églises sont visitées par des gens qui les traitent rigoureusement comme des musées. Donc c'est ce brouillage-là qui est en question. On n'est pas dans un évidement, on est dans une recomposition. C'est cette recomposition qu'on peut traiter. Alors moi, ce qui m'intéresse, et je terminerai là-dessus, c'est que quand je vous dis dérégulation, hybridité et folklorisation, vous pouvez dire, bon, vous êtes en train de nous resservir sur un mode plus sophistiqué la vieille problématique de la perte du religieux. C'est-à-dire une perte du religieux qui n'est pas mesurée simplement au vide des églises, mais qui est mesurée de façon un peu plus raffinée à travers toute une série de, au fond, de signes, de symptômes d'une décomposition. Et si on imaginait qu'il se passe aussi d'autres choses. Et en particulier, si je j'évoque ça, je l'évoquerai très rapidement parce que je suis vraiment à la recherche de la manière de formuler la chose en ce moment. C'est ça mon fameux dernier chapitre. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir à ça, c'est ce que j'ai observé. Je suis en train de faire un gros travail sur le monachisme, en effet, et en particulier sur la manière dont, dans les monastères, toutes sortes de faits de culture se déploie, au moins autant qu'une vie religieuse, et la manière dont des conflits éclatent autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour un monastère, pour une communauté monastique, d'accueillir des concerts, par exemple, ou bien jusqu'à quel point on peut aller, et qu'est-ce que ça risque de perturber de la vie monastique elle-même. Alors, vous avez des endroits où on dit, nous, on ne veut pas de ça. Hein, on ne veut pas de ça, on tient ça à distance, il faut maintenir la vie monastique, elle n'a pas à se compromettre de cette façon. Puis il y a d'autres endroits où on s'aperçoit que la problématique de l'hospitalité monastique elle-même se trouve travaillée par cette question. Jusqu'à, par exemple, je pense à un exemple très précis, à l'ancien abbé de Ligugé, Jean-Pierre Longeat, qui est lui-même un oboïste de très haut niveau, a eu l'habitude, et en lien d'ailleurs avec la réforme liturgique, c'est-à-dire que la nécessité de produire une hymnologie en français à la suite de la réforme liturgique a favorisé l'entrée des musiciens dans les monastères. Ils ont beaucoup travaillé dans les monastères, il y a eu une énorme coopération entre musiciens et moines autour de la fabrique, des nouveaux recueils d'hymnes, etc. Eh bien, Jean-Pierre Longeat m'expliquait, enfin, il l'a d'ailleurs écrit, mais on a parlé ensemble, la manière dont il ne s'agissait pas simplement de demander aux musiciens un service, en l'occurrence, ou bien simplement de les accueillir pour faire des concerts, pour élargir, au fond, la sphère d'influence, entre guillemets, du monastère. Mais il disait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, eux répétaient de leur côté, nous, on faisait l'office, etc. Et puis, on échangeait, on s'écoutait mutuellement. Ils venaient écouter l'office, ils nous écoutaient chanter, et nous, on les écoutait répéter, travailler. Et puis, dit-il, il y a un espace où nous nous tenions ensemble. J'ai beaucoup aimé cette formule, un espace où nous nous tenions ensemble. C'est-à-dire que, se jouait quelque chose dans lequel il n'était pas forcé d'aller identifier d'emblée ce qui relevait du spirituel et ce qui n'en relevait pas, ce qui relevait de la culture, ce qui n'en relevait pas. Un espace où nous nous tenions ensemble. Et qu'est-ce qui se jouait là ? Ce qui se joue là, c'est beaucoup plus qu'une simple disposition à l'accueil propre à la tradition bénédictine. Ce qui se joue là, c'est au fond l'invention concrète de ce que Christophe Théobald, en théologien, a appelé l'invention d'un style, d'un christianisme stylistique, d'un style chrétien, qui finalement consisterait précisément non pas tant à dire le sens des pratiques ou des attentes, de répondre aux attentes directement, mais consisterait finalement à aller travailler de l'intérieur en faisant fonctionner un dispositif d'hospitalité. Alors, je pense que dans ce qu'évoquait Jean-Baptiste de Foucault hier sur le rôle que pourraient jouer des églises comme lieu où on pourrait se tenir ensemble, je pense que ça rejoint un peu l'intuition du propos. C'est-à-dire, oui, à côté des gens qui viennent dans les églises pour recevoir les sacrements, etc., et qui les reçoivent là, effectivement, se joue aussi toute une quête pas vraiment identifiable qui se joue dans un entre-deux. La question est de savoir si, face à cet entre-deux, on s'emploie immédiatement à trier ce qui relève d'une case et ce qui relève de l'autre, ou si on laisse monter les choses ensemble en construisant pas seulement un dispositif pastoral, mais un dispositif théologique autour du concept d'hospitalité lui-même, autour de la pratique de l'hospitalité elle-même. Mais ce christianisme stylistique, comme dit Théobald, cette pratique hospitalière des églises, elle est pas, je répète, c'est pas seulement inventer un modèle d'utilisation des lieux, c'est produire une ecclésiologie. Je m'arrêterai là, il fallait vraiment que je sois tout à fait en fin de carrière pour me risquer comme sociologue sur ce terrain. Je vous remercie.